Pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Après l'étrange temps d'arrêt qu'a constitué pour beaucoup la période du confinement liée au Covid-19, il n'est pas impossible que nous soyons en train de vivre une période d'accélération de l'histoire. En France, pour s'en tenir au petit bout de la lorgnette, Macron a bien sûr remis au galop son cheval néolibéral. Et de leur côté, les luttes sociales n'ont pas désarmé. Dernièrement, dans une configuration antiraciste spectaculairement vigoureuse pour ce qui est de la dernière séquence, mais cette séquence prenait place dans une longue et intense série qui démarre au moins avec les Gilets jaunes, qui passe par les luttes et les grèves contre la réforme des retraites, qui passe par un front féministe revigoré, qui passe aussi par les mouvements de la jeunesse pour le climat. Bref, ça bouge vite. Et ça risque, de notre côté, de bouger sans trop d'effet, étant donné le chaos organisationnel qui règne dans la gauche anticapitaliste. Chaos qui l'empêche de transformer la situation en opportunité, me semble-t-il. Alors, ce qui fait défaut, ce n'est pas seulement un horizon alternatif partagé et clairement constitué. Ce qui fait défaut, c'est sans doute aussi plus profondément une ligne stratégique profondément, rigoureusement élaborée qui permette de rallier les forces qui œuvrent au surgissement d'une alternative post-capitaliste, mais qui œuvrent jusqu'ici en ordre dispersé et donc évidemment en vain. Il est donc urgent, plus qu'urgent, de parler de stratégie, et c'est avec mes deux invités du jour que je vais le faire, que je désirais ardemment et depuis longtemps le faire. Stathis Kouvelakis, Frédéric Lordon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à discuter ensemble de stratégie. Frédéric, de ton côté, tu as contribué à la réflexion stratégique avec une série de textes que tu as publiés sur ton blog La Pompe à Finance, blog qui est relié au site du Monde Diplomatique, textes dans lesquels tu examines à la fois les données de la situation présente et les données à envisager pour le monde d'après. Stathis, de ton côté, tu es membre de la rédaction de Contretemps, revue en ligne, qui a copieusement contribué à la réflexion stratégique ces dernières semaines, ces derniers mois, en publiant une série de textes absolument passionnants. Alors, il y en a un, notamment, qui a retenu mon attention sur le site de Contretemps. C'est un texte qui est un texte de Mathieu Bonshomme intitulé « Faire naître le nouveau, lutte sociale et horizon politique aujourd'hui en France ». Il a retenu mon attention, ce texte, parce qu'il permettait de constituer une sorte de tiers matériaux qui pourraient structurer notre échange. Donc, je vous l'ai mis au menu de cette discussion. Vous l'avez lu tous les deux. Et donc, on pourra reprendre un peu l'itinéraire, marquer les points d'étape qu'il propose lui-même, notamment sur le diagnostic de nos défaites et les perspectives stratégiques à privilégier. Mais avant de cheminer ensemble donc, dans cette exploration critique et stratégique, je pense qu'il faut qu'on examine d'abord mon postulat pour cette discussion, mon postulat selon lequel la situation présente constituerait pour notre camp, qu'on appellera celui de l'alternative post-capitaliste, constituerait une opportunité. Parce que la situation présente, c'est quand même la conjugaison de plusieurs formes de crises qui s'aggravent les unes les autres, crise sanitaire, crise écologique, crise sociale, crise économique, qui promet de devenir cataclysmique dans les mois qui viennent. Une situation aussi profondément marquée par la crise et peut-être la catastrophe. Est-ce que ça constitue pour notre camp une opportunité ? Stathis.
Je crois que ce qui importe, et je crois que c'est le but en fait de l'échange que nous aurons lors de cette discussion, c'est non pas de venir avec des solutions clés en main, mais d'essayer de clarifier la manière de poser les problèmes. Mm-hmm. Et moi, je me retrouve assez dans la manière dont tu as posé précisément le problème avec le questionnement et le cheminement initial. Je crois que c'est une bonne base, en effet, qui permet de nous départir d'un certain nombre d'illusions qu'on a vu émerger au cours de cette période qui préexistait, mais qu'on a vu réapparaître quand même de façon renforcée. Alors, je commencerai par ta question. Oui, c'est une opportunité. En tout cas, c'est ainsi qu'il faut toujours voir des moments de basculement ou des moments de crise aiguë, pour les raisons que tu as mentionnées. y a une crise à plusieurs niveaux qui n'a fait que s'accentuer. Il y a un durcissement, on va dire, des luttes de classe. Hein, il faut dire les choses par leur nom en France depuis au moins 4 ans, depuis au moins la séquence de la loi travail. On voit à la fois une combativité par en bas et on voit une extrême violence et un durcissement de la réponse du pouvoir et des classes dominantes. Ce sont des phénomènes qui ont une dimension mondiale. On a vu il ne faut pas avoir un regard simplement hexagonal. On a vu dans la période qui a précédé le Covid des soulèvements populaires éclater dans plusieurs points du globe. Donc c'est un signe qu'on assiste à un basculement de période, sans doute, assez profond. Et voilà, donc ça veut dire que dans ce genre de situation, il y a une urgence à agir. Et cette urgence part effectivement d'un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est que dans cette situation, eh bien, face à nos adversaires, on n'est absolument pas à égalité. Et je crois qu'on l'a vu en France, les mouvements, les luttes très importantes qu'on a vues apparaître au cours de ces dernières années, aucune d'entre elles n'a abouti. Contrairement à 95, par exemple, qui s'est soldé par une demi-victoire, en fait, du mouvement social, vu que Alain Juppé, on s'en souvient, a été obligé de céder sur la question des régimes spéciaux, eh bien, ces régimes spéciaux ont été au centre, justement, de l'affrontement du mouvement des retraites, mouvement extraordinaire par bien des aspects, par la ténacité des grévistes, par sa durée, mais qui n'a pas permis d'aboutir. Et on pouvait dire autant du mouvement contre la loi travail, mais on peut dire autant de la mobilisation antiraciste actuelle, hein, dont la riposte est venue, on le voit, du côté de la police. Et le changement de ministre qui s'est fait est un changement évidemment purement cosmétique qui indique bien que c'est la même ligne extrêmement répressive et autoritaire qui va être tenue au cours de la période à venir. Donc on est face à des problèmes assez profonds. Ils vont donc s'interroger sur ce qui empêche justement ces mobilisations sociales de gagner. Et c'est par ce questionnement que le texte de Mathieu Bonshomme, auquel tu as fait référence, commence. Bon, donc, qu'est-ce qui empêche, d'une part, et là, il y a le poids effectivement de faiblesses structurelles et de défaites accumulées. Bon, l'affaiblissement du mouvement syndical en est une. La fragmentation profonde qui existe entre des classes populaires en est une autre, hein, c'est-à-dire les trois moments que tu as mentionnés, d'une certaine façon, dressent une sorte de cartographie. Non seulement des luttes, mais aussi des lignes de fracture entre les classes dominées. Hein, parce qu'il est clair qu'entre les secteurs sociaux qui se sont mobilisés dans le conflit pour les retraites, les gilets jaunes et la mobilisation antiraciste, on a trois secteurs dont on voit très bien qu'on peut poser le problème comme on veut, l'alliance, la convergence, etc., n'a absolument rien d'évident. C'est un problème qui est tout à fait redoutable, et c'est la deuxième question d'ailleurs que pose Mathieu Bonshomme dans son texte, en essayant de fournir quelques éléments des réponses. Comment unifier ? Et il y a un troisième niveau aussi qui, à mon avis, est indispensable, c'est comment unifier signifie aussi comment cliver ? On ne peut pas unifier sans cliver. Donc il faut voir où passe précisément la ligne de clivage. Et d'ailleurs, dans les échanges qu'on a eus dans la rédaction de Contretemps, enfin en interne, mais aussi par d'autres textes qu'on a publiés, une bonne partie précisément du débat a porté là-dessus. Hein, comment combiner unification et clivage autour des axes qui sont pertinents, valides dans la période actuelle et non pas fantasmatiques ou ce qu'on voudrait qu'ils soient. Je crois que c'est comme ça qu'il faut démarrer pour écarter notamment, et je terminerai là-dessus, avec les illusions qu'on a vues apparaître au cours de cette période. Alors bon, il y a une forme particulièrement naïve. Ah, le monde d'après va être en quelque sorte une sorte de génération spontanée complètement différente du monde d'avant. Hein. Il y a même des amis m'ont fait dire, tu comprends, pendant le confinement, il y a une sorte de mutation anthropologique qui va passer donc du centre. Comme par magie, c'est-à-dire sans passer par la dure épreuve du réel, c'est-à-dire du conflit, de l'affrontement, etc., comme si le différent, le nouveau pourrait surgir comme ça par une sorte de génération spontanée. Puis il y a une autre illusion qui en fait est assez étroitement liée à celle-là, c'est l'illusion, disons, intellectualiste, hein, qu'on a vu surtout apparaître par des gens pour lesquels le confinement s'est passé dans des conditions, on va dire, moins difficiles que pour d'autres, hein, et qui ont pensé que par un effort, un simple effort de réflexion, des idées nouvelles germeraient, qui allaient comme ça éclore sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas réfléchir et que c'est tant mieux d'ailleurs si certaines et certains d'entre nous, bon, notamment dans Contretemps et dans bien d'autres lieux, ont essayé de réfléchir justement. C'est ça qu'il faut faire, mais en étant lucide quand même sur la situation et ce qui nous attend et ce qui est déjà devant nous, hein, de toute façon. Donc voilà, en tant que propos liminaire, en quelque sorte, ouais. Un peu le type de défrichage que je voulais proposer.
Alors, du coup, Frédéric, là, Statis à la fois a répondu sur la question de l'opportunité, et puis, on va aussi un petit peu sur la question du diagnostic des défaites précédentes. Donc, toi, est-ce que tu, quand même, sur cette question liminaire, est-ce que tu penses que la situation présente est une opportunité
pour... je dirais, toutes choses égales par ailleurs, oui. Ouais. Alors, évidemment, la grande question à discuter, ça sera toutes les choses qui ne sont pas égales par ailleurs. Mais toutes choses égales par ailleurs, oui, parce que... je pense que nous vivons une situation qui voit à la fois l'accélération, l'intensification et surtout la synchronisation des processus. Et que ça, c'est vraiment très important. Pour revenir à des catégories de l'analyse politique marxiste classique, on vit typiquement ce que, chez Gramsci, on appelle une crise organique. Qu'est-ce que c'est qu'une crise organique ? C'est l'équivalent... dans l'ordre des processus politiques, de ce que les économistes de la théorie de la régulation appellent de leur côté, dans l'ordre des crises économiques, une grande crise, c'est-à-dire une situation dans laquelle les contradictions du régime politique ne peuvent plus accommoder, comme elles l'étaient jusqu'à présent, dans la configuration des institutions établies, de telle sorte que ces contradictions sont génératrices de tensions qui commencent à déborder partout, et qui déborde sous la forme d'une symptomatologie assez caractéristique. Premier élément de symptomatologie, l'effondrement de la légitimité du bloc au pouvoir et le déséquilibre de la balance entre coercition et consentement dans les mécanismes de reproduction de la viabilité politique d'ensemble, avec évidemment un poids grandissant de la coercition, alias la répression policière, en proportion exacte de ce que de l'autre côté, le consentement s'effondre. Donc ça, c'est un signe vraiment très important. Et un deuxième signe de cette symptomatologie qui peut paraître anecdotique, mais qui, à mon avis, est révélateur, c'est, je ne sais pas comment le dire, l'apparition des personnalités bizarres. Mais non, mais
oui,
c'est vrai.
Oui,
hein.
Oui.
Le césarisme, disait Gramsci.
Alors hein. Oui, mais alors moi, je pense au césarisme, mais à plein d'autres gens... Enfin, je veux dire, complètement feuqué de la tête, hein, je veux dire, tu vois. Alors, c'est pas toujours
là,
pour
le... Là, tu penses à des figures comme Raoult, non, par exemple, qui
tu vas voir. Ouais, c'est pas toujours pour le pire, hein.
Oui, oui.
Par exemple, on peut estimer que quelqu'un comme François Ruffin, quoi qu'on pense par ailleurs, et quels que soient les désaccords qu'on ait avec lui, et moi j'en ai, hein, François Ruffin est une figure politique qui était inconcevable il y a seulement 10 ans. Donc, que de temps en temps survienne un gars comme ça, qui déboule dans l'Assemblée, qui soit capable de porter un maillot de foot, de dire des choses avec une véhémence qu'on n'avait jamais vue dans des réunions de commission, etc., c'est aussi un signe de ce que, tu vois, la figure corsetée, propre sur elle, totalement standardisée de l'homme politique, de parti, de groupe parlementaire, etc., elle commence à craquer de tous les côtés. Et puis, tu as l'apparition des énergumènes. Alors bon, par exemple, Sarkozy est un signe avancé de crise organique. C'est un énergumène, tu vois. C'est un type vraiment, mais même dont... je veux dire, on commence à s'interroger sur la configuration psychique des hommes de pouvoir. Et ça, ouais. ça c'est un signe.
Mais du coup, Macron est un énergumène, mais au Macron, même titre que Sarkozy. Si sa veux, configuration psychique étonne,
non, mais
pour
moi. Macron est un psychotique au pouvoir.
Oui.
Donc, effectivement, on a là un type... qui est tout à fait étonnant. Donc 2017 est un point d'intensification de la crise organique, mais alors par excellence, puisque l'éclatement du paysage politique, le surgissement, même si, enfin tu vois, on sait tous la part d'artificialité qu'il a, le surgissement d'un truc comme La République en marche, etc. Bon, et puis alors après, t'as les zinzins, quoi. Alors là, t'as les zinzins, t'as, ou les personnalités improbables qui s'élèvent jusqu'au sommet du pouvoir, un Benalla ou un Joachim Sonforget, c'est quand même... c'est pas juste un objet de rigolade. Moi, je pense que l'apparition de ces personnages-là sur la scène publique dit quelque chose, ou des Raoult, ou alors le fait que le président de la République République téléphone à Bigard, qu'on envisage que Cyril Hanouna soit candidat à la présidentielle. Tu vois, je veux dire, on est dans un déconnage, mais systémique, là, hein, donc qui dit quelque chose sur la période. Et quand une crise organique commence à se déclarer de cette manière et à s'intensifier, évidemment, ça rouvre des degrés de liberté. Ça veut dire que les cadres institutionnels commencent à craquer, et ça, c'est plutôt bon pour les forces critiques. Donc, toute chose égale par ailleurs, ça ouvre des opportunités. Voilà. À la fois, l'accélération et la synchronisation des processus, la dislocation qui est inhérente à la crise organique, tout ça nous est favorable. Alors maintenant, la question suivante, qui est notre question aujourd'hui, c'est dans quelles conditions sommes-nous capables de faire quelque chose de cette opportunité ?
Ouais. Alors peut-être à la condition déjà de faire le diagnostic de nos défaites passées. Hein, ça fait partie quand même, je pense, du scénario de travail nécessaire. Faire le diagnostic de nos défaites passées. Mathieu Bonshomme s'y emploie dans son article en mettant en avant l'hypothèse selon laquelle ce qui fait que ça ne marche plus. Hein, en gros, depuis 1995, on n'a rien gagné depuis 1995 et en 1995, on avait gagné qu'un petit bout. On n'a rien gagné parce que les classes populaires n'y croient plus. Hein. Il met en avant la question des conditions subjectives des classes populaires. On ne croit plus dans la possibilité d'une alternative et du coup, on ne mobilise pas du tout d'énergie au service d'une lutte. Souvent, quand les gens ne rentrent pas dans la grève, hein, pendant la grève de cet hiver, on a beaucoup voulu étendre la grève et on se heurtait toujours à un argument du type « non, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de faire grève ». Et Mathieu Bonshomme souligne que les moyens de faire grève, en fait, dans les classes populaires, ça fait longtemps qu'on ne les a pas. La classe ouvrière n'avait pas les moyens de faire grève et faisait grève quand même, tant qu'elle croyait dans la possibilité d'une alternative. Donc Mathieu Bonshomme forme cette hypothèse. En fait, c'est pas tellement que les gens ont plus les moyens de faire grève, c'est qu'ils croient pas suffisamment dans la possibilité d'une autre organisation sociale et économique pour courir le risque, enfin dépenser le coût de la grève. Ça vaut pas le coût puisqu'il n'y a pas de monde possible en dehors de celui-là. Donc, est-ce que l'un et l'autre, vous partagez ce diagnostic, hein, qui, en gros, est un problème d'imaginaire collectif ?
Je dirais oui et non. Oui, bien sûr, il y a un sens commun qui s'est solidement installé à l'échelle planétaire depuis l'effondrement de l'URSS, et en réalité depuis avant même cela. Hein, les années 80 ont été des années dans lesquelles le néolibéralisme était à l'offensive, le bloc dit communiste était en train dans un état tout à fait déliquescent, apparaissait de plus en plus comme un repoussoir, et 89, 90 est apparu vraiment comme le moment de purge de cette séquence. Mais là, il faut bien dire que le sens commun dans le monde entier, hein, c'est que le capitalisme est l'horizon ultime, et qu'il n'y a pas d'alternative systémique. Bon, ça, c'est une caractéristique de la période. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les contradictions se sont éteintes. Moi, je me souviens très bien, j'ai vécu intensément le mouvement de 95, j'ai écrit dessus. Quelques années après, en 2007, j'ai publié un ouvrage, La France en révolte, dans lequel j'essayais d'examiner une séquence de lutte en fait, qui s'étendait des années 80 jusqu'à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Et en 95, on était dans une situation politique extrêmement déprimée. Il n'y avait pas plus d'horizon anticapitaliste ou post-capitaliste partagé dans les classes populaires. La gauche avait été laminée dans les élections de 93. On était dans le naufrage collectif de la séquence Mitterrand, qui a été une épouvante absolue pour la gauche, pour le mouvement syndical dans ce pays, pour le mouvement ouvrier. Bon, et ça n'a pas empêché que les grèves de 95 obtiennent un demi-succès qui, pendant toute une période, a ouvert un espace quand même. Et ça s'est traduit de diverses façons. Politiquement, la défaite surprise de la droite en 97 et le retour d'une gauche plurielle. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'était pas du tout le scénario qui se dessinait, ne serait-ce que quelques années auparavant. Sur le domaine intellectuel et des mouvements, on a eu une effervescence quand même à ce moment-là. On a eu Bourdieu devenu l'intellectuel public central de référence, on a eu un renouveau de la contestation sociale, plusieurs mouvements sociaux, attaques, un renouveau du monde diplomatique, enfin on a eu toutes sortes de choses qui sont apparues dans cette séquence. Donc il y a des ouvertures qui sont possibles, mais qu'est-ce qui a rendu cette victoire, ne serait-ce que partielle, de 95 possibles. Eh bien, un mouvement syndical qui, en tout cas dans le secteur public, a été dans un bien meilleur état qu'actuellement. Mmh. Il faut bien le dire. Je veux dire, on n'avait pas cet état d'affaiblissement, de fragmentation, déjà du secteur public en tant que tel, hein, où son éclatement, les processus de privatisation étaient beaucoup moins avancés en 95 qu'aujourd'hui, mais aussi un mouvement syndical beaucoup plus costaud, où, par exemple, la CFDT, qui a joué le même rôle à peu près, hein, avec Nicole Notat à l'époque qu'aujourd'hui avec Laurent Berger, néanmoins a vu sa principale fédération impliquée dans la grève, la Fédération des Transports, être à la pointe du mouvement, par exemple. Hein. Donc il y avait un front syndical commun entre la CGT, la Force ouvrière et puis toute une partie de la CFDT qui a permis de créer les conditions d'une grève étendue, non pas dans le secteur privé, mais quand même dans l'ensemble du secteur public, de façon beaucoup plus soutenue, beaucoup plus massive que ce qu'on a vu là, où quand même, on a bien vu que la SNCF et la RATP étaient relativement isolées en termes de grève reconductible, y compris par rapport au reste du secteur public, qui n'a participé que de façon intermittente et partielle dans le mouvement, et qui n'a pas permis, en quelque sorte, cette courbe ascendante qu'on a vue en 95. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne, d'ailleurs, qui me frappe, depuis 1996, en fait, c'est que dans tous les mouvements, le pic, en fait, est quasiment au début ou juste après le début du mouvement. On n'a pas ces sortes de dynamiques ascendantes qu'on a vues aussi bien en 1995 qu'en 2006 avec le CPE, qui sont les deux, en quelque sorte, succès des mouvements sociaux de la période antérieure. Bon, ça veut dire qu'il y a un travail de fourmi, un travail d'organisation, un travail de structuration du monde du travail qui est à recommencer. Et tout le monde a l'air de se défiler de cette responsabilité. Et on voit bien que les syndicats sont dans un état de désarroi profond face aux transformations de l'appareil productif, du secteur public, du secteur privé, évidemment, de tout ça, et ne peuvent pas faire face, en quelque sorte, à cet affaiblissement. Et je terminerai aussi par un constat. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Ça, c'est un problème qui est redoutable, parce qu'on part avec une inégalité, quand même, dans le rapport de force qui est tout à fait réel. Et on a bien vu que des efforts, en quelque sorte, de passer par-dessus ces médiations indispensables, le mouvement syndical en est une, hein. il y en a bien d'autres, hein, je veux dire, du côté des autres fronts et secteurs qui se sont mobilisés, sont illusoires. Par exemple, mobiliser autour d'un grand chef et d'une campagne présidentielle aussi réussie soit-elle, hein, et qui peut faire avancer, hein, qui a des éléments d'avancement, ce que Gramsci a appelé un césarisme progressiste, hein, donc, qui ne sous-estimait pas du tout, hein, il n'y avait pas du tout de jugement progressiste, mais on a bien vu les limites de ça. Et les limites de ça, c'est les limites qui se sont vues dans la durée, dans la capacité de construction de quelque chose, dans la capacité d'avoir un ancrage social qui permet de poser la question d'une unification qui n'est pas simplement par le haut le temps d'une campagne électorale, mais qui se joue sur la durée, qui se joue sur la construction d'un projet commun avec un ancrage réel dans les mouvements, dans les secteurs, dans les quartiers, dans les entreprises, etc., qui permettent vraiment de construire un camp qui, là, est capable, justement, d'obtenir des succès et de faire face de façon victorieuse face à un adversaire qui, il faut bien le dire, est complètement déchaîné. Complètement, il n'y a plus aucune limite, je veux dire. Là, on est face, je veux dire, ce qu'a dit Frédéric est tout à fait exact. La classe dominante et le personnel qui la représente ou qui essaye de la représenter est déchaîné. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, d'autant que des parties entières de l'appareil d'État s'autonomisent, hein, c'est-à-dire la crise organique s'intériorise dans l'appareil d'État, et ce n'est plus les ministres de l'Intérieur qui dictent la répression à la police, c'est la police elle-même qui s'est autonomisée à l'intérieur même de l'appareil d'État et qui tient sous sa coupe les ministres de l'Intérieur. Bon, on est à des glissements très dangereux. Par certains aspects, ça rappelle les années 30, ça rappelle Weimar. On avait les mêmes phénomènes d'autonomisation de secteurs entiers de l'appareil d'État. Et donc, ça nous met aussi une pression très forte pour réagir et pour riposter.
Alors du coup, tu as déplacé le diagnostic. Plutôt que la question de l'imaginaire collectif qui n'y croit plus, finalement, tu as mis l'accent beaucoup sur les questions institutionnelles de l'organisation, les syndicats et tout. Je ne sais pas si, Frédéric, tu partages ce déplacement du diagnostic.
Je vais faire exactement pareil. Je vais me mettre dans la trace de Statis, parce que les conditions subjectives, ça ne surgit pas spontanément. Je veux dire, ça, c'est l'effet d'un d'un travail collectif et qui a lieu au moins pour partie dans des institutions. Bon. Tout le monde a noté au moment des Gilets jaunes l'absence, enfin c'était vraiment un silence éloquent sur la question salariale à proprement parler, au début en tout cas du mouvement. Hein. Plein de choses étaient mises en question, les taxes, ci, cela, mais la question salariale, la mise en question de la condition salariale est devenue comme un impensable. C'est-à-dire la situation salariale, le rapport salarial ont été tellement naturalisés dans les esprits que ça ne fait pas l'objet d'une remise en question possible. Bon. Moi, je pense que l'analyse de Statis à partir de 1995 est vraiment très importante. C'est de là qu'il faut partir. C'est de là qu'il faut partir pour voir ce qui s'est passé depuis. Ce qui s'est passé depuis, c'est ce que j'appellerais la fermeture de la possibilité social-démocrate. Qu'est-ce que c'est la possibilité social-démocrate ? C'est la possibilité pour le salariat organisé et avec, y compris dans ses médiations politiques, partisanes, c'est la possibilité pour le salariat organisé d'obtenir des gains significatifs contre le capital, mais à l'intérieur du capitalisme. Cette possibilité-là, moi, je crois qu'elle s'est fermée. Et elle s'est fermée pour les raisons que tu dis, c'est-à-dire pour des raisons qui tiennent à la radicalisation forcenée et nos limites du capital, qui lui-même a fait surgir les structures de son déchaînement, et qui les approfondit dans un processus cumulatif où plus de déchaînement fait plus de structures du déchaînement, qui font plus de déchaînement, etc., etc. Bon, donc là, on est dans une situation qui est évidemment très, très problématique, et dans laquelle je crois que les organisations syndicales ont totalement perdu pied et sont dans une impasse stratégique dont elles ne sortiront plus. Et je suis obligé de le dire, hein, je pense ici spécialement à la CGT. La CFDT, on les a perdus depuis longtemps. Bon, FO, une organisation trop composite, trop hétérogène pour pouvoir être cernée aisément. Mais on voit bien, c'est quand même la CGT qui reste la grosse puissance d'appel, de mobilisation, etc. Et qui appelle dans des conditions qui sont, mais comme on dit en anglais, self-defeating, c'est-à-dire qui se met elle-même en situation d'échec quasiment dès le début. Pourquoi ? Parce que la CGT, typiquement, est une organisation social-démocrate, au sens que j'ai dit tout à l'heure. C'est le compromis fordien qui est un compromis social-démocrate, a été négocié par le Parti communiste et la CGT, donc les grandes organisations représentatives du monde du travail. Et c'est un compromis dans lequel on a échangé d'une part le maintien de la souveraineté du capital sur la production et d'autre part des gains salariaux, statutaires, etc., institutionnels divers, qui est bon. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a déjà dû en parler à plusieurs reprises de cette scène extraordinaire du film Reprise, à l'entrée des usines Vondère, où il y a une salariée qui, c'est la fin du mouvement, qui ne veut pas y retourner, et là, il y a le syndicaliste Patelin qui lui dit « Mais si, il faut y aller, on a beaucoup gagné, et puis tu verras, on obtiendra davantage, on va recommencer le combat, etc. Ouais. » Bon, c'est une scène qui est pathétique au sens propre du terme.
Elle répond « Non, moi, je ne veux pas y retourner. » Elle répond «
Je veux pas y aller
dans
cette tôle, c'est dégueulasse, on pue. » Enfin, je veux dire, elle pose. C'est vraiment le problème de la dégueulasserie salariale dans toute sa splendeur. Mais si par une expérience de pensée, on se coule dans la logique du syndicaliste CGT de l'époque, son raisonnement fait sens à la limite. Alors, il ne se rend pas compte qu'il vit les derniers moments de la période où ce type de raisonnement fait sens et qu'il est en train d'entrer dans un monde où tendanciellement ça va faire de moins en moins sens. Mais la CGT est globalement restée sur cette ligne-là. Elle ne s'aperçoit pas que les conditions de possibilité de ces gains dans les luttes sociales ont été entièrement détruites par les transformations des structures du capitalisme.
Bon. Mais alors, du coup, il faut faire quoi par rapport aux syndicats?
Absolument, c'est ça. Mais c'est ça la question. Et c'est ça la raison, c'est ça la raison en définitive du problème que pose Mathieu Bonshomme dans ce texte. Pourquoi les gens n'y vont plus? Ils n'y vont plus parce qu'ils en ont marre de prendre des tôles. C'est simple comme ça. Je veux dire, se mettre
parce
en grève.
Ils ont compris intuitivement ce qu'ils étaient en train de démontrer qu'en fait, on n'obtiendra rien de plus.
Mais c'est-à-dire qu'ils ont au moins induit empiriquement de la série des combats perdus que le suivant avait peu de chances d'être victorieux. C'est simple comme bonjour. Hein. Ce sont des empiristes britanniques, tu vois. Je veux dire, bon. Et en effet, partir en grève, c'est coûteux à tous égards, c'est coûteux financièrement, c'est coûteux pour sa position dans l'entreprise, tu vois, dans le secteur privé, etc., tu prends des risques. Bon, si tu sors, tu prends une bâche, tu ressors, tu reprends une bâche, au bout d'un moment, tu n'y vas plus. Et ça, c'est entièrement compréhensible. Les formes ritualisées du combat syndical, revendicatif, etc., sont perdantes. Je parle au niveau global. Au niveau local, évidemment, la forme revendicative continue de s'imposer. C'est parce que c'est sa grammaire constitutivement. Mais au niveau global, c'est perdant, le jeu proprement revendicatif. On va obtenir plus de SMIC, moins de les 35 heures maintenues, approfondies ou je ne sais pas quoi. C'est perdant parce que les conditions de possibilité structurelle n'existent plus. Elles ont été détruites. Bon, tant que les grandes centrales syndicales persisteront dans ce jeu foutu d'avance, elles continueront d'enregistrer la série des échecs, comme on a vu avec la loi travail, les ordonnances du code du travail, la loi SNCF, la loi retraite. Alors là, tu vois, bon, on va voir comment ça va se passer. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas d'avenir possible pour le syndicalisme s'il ne redevient pas un syndicalisme politique, c'est-à-dire s'il n'annule pas les décrets plus ou moins bien compris de la charte d'Amiens qui établissait une séparation hermétique entre le monde syndical et le monde politique, comme si c'était deux sphères qui n'avaient rien à voir, comme si les questions sociales n'étaient pas essentiellement politiques, mais évidemment tout ça au prix d'une espèce de malentendu sur le sens du mot politique. C'est selon que tu le comprends stricto sensu comme c'est le monde des institutions politiques, électorales, etc., ou si tu donnes à politique une extension sous laquelle les questions sociales tombent naturellement. Mmh. Alors, tant que le syndicalisme ne redeviendra pas un syndicalisme politique, c'est-à-dire qui sort de ce que j'appelle le syndicalo-syndicalisme, ou de ce que Lénine appelait l'unionisme, et qui pose à nouveau la question des structures du capitalisme, question qui n'est plus à proprement parler sociale, tu vois, mais qui est une question politique dans toute son extension. Donc, tant que le syndicalisme ne redeviendra pas un syndicalisme politique, et je dirais même un syndicalisme politique révolutionnaire, il continuera d'aller d'échec en échec.
Mmh. Tu veux répondre aussi, Staty, sur cette question des syndicats et que faire ?
Oui, peut-être en élargissant aussi un peu le problème. Alors, concernant le syndicalisme, je dirais que ma perception et ce que j'ai vu dans des conflits passés, qui a été confirmé, je crois, dans le conflit sur les retraites, c'est que la CGT, au niveau, disons, de sa conception d'ensemble d'une mobilisation, se tient à un mauvais compromis entre la compréhension que sans une certaine mobilisation et sans un certain niveau de conflit, on se fera bouffer tout cru, d'un côté, et d'un autre côté, une tendance lourde à se replier dans un horizon qui reste celui d'une négociation avec le pouvoir, avec l'État, éventuellement avec le patronat quand il s'agit du secteur privé ou quand le secteur privé est aussi en jeu. C'est sous une autre forme ce que disait avant Frédéric sur le en quelque sorte la forme à travers laquelle le conflit social était géré à l'époque fordienne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est la logique des journées d'action, par exemple. Hein. Bon, c'est la logique, oui. C'est-à-dire d'une forme encadrée et relativement ritualisée du conflit social, mais qui permettait, dans une séquence historique antérieure, d'obtenir des choses. Déjà en 1995, ce n'était plus valable. Hein. C'est parce qu'il y a eu du reconductible fort à l'échelle du secteur public tout entier, ou quasiment, que quelque chose a pu être obtenu. Là, on a vu la CGT se raccrocher en fait à un mouvement de grève reconductible qui est parti de la RATP à partir de secteurs qui n'étaient pas la CGT, d'ailleurs. Hein. On a vu des syndicats relativement improbables, par exemple, se mettre plus ouverts, en quelque sorte, à une pression qui vient d'en bas, de la base, sur une logique de reconductible. Donc, elle n'arrive pas à penser de façon plus stratégique la façon dont le conflit social peut être géré dans une période de radicalisation, de durcissement de l'affrontement. La deuxième chose, c'est qu'on a un repli en fait, du syndicalisme en général, à l'exception sans doute de Sud Solidaire, sur le terrain des relations professionnelles. Mmh. En fait, hein. Donc les syndicats se conçoivent comme des grandes machines à négocier, mmh. avec certaines qui essayent d'être plus efficaces que d'autres et de ne pas être enfermées simplement comme la CFDT dans un mmh. rôle d'interlocution et de discussion avec le pouvoir. Bon, mais tout ça est extrêmement insatisfaisant. À ceci près que la CGT, en fait, pour la CGT, le problème se pose d'une façon différente, parce que la CGT avait, pendant toute la séquence où elle était organiquement liée au Parti communiste, elle avait dépassé en réalité la charte d'Amiens.
Oui. Hein,
il ne faut pas oublier quand même qu'au temps de l'union de la gauche, il y avait une union entre la CFDT à l'époque et la CGT qui appuyait mmh. explicitement le programme commun et la perspective d'un gouvernement d'union de la gauche. Hein. Donc on était les syndicats, mais ils s'étaient raccrochés à un projet politique qui passait par la médiation de la représentation partisane classique et des accords entre les états-majors des deux principales forces de gauche à l'époque. À l'évidence, ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Le Parti communiste est entré dans un déclin absolument irréversible. Donc la CGT a pu vivre ça comme la rupture du lien avec le PC, comme une forme d'émancipation. Et une partie de ses cadres et de ses militants l'ont effectivement compris ainsi, ratant du même coup la régression que cela pouvait entraîner et qui est devenue effective, qui est abandonner le terrain politique et abandonner le terrain de l'anticapitalisme, au bout du compte. Hein. Bon. Donc là, il y a effectivement quelque chose à penser. Maintenant, est-ce qu'en France, c'est les syndicats qui peuvent être, même des syndicats qui se politisent en quelque sorte, est-ce que c'est ça l'épine dorsale autour desquelles les classes dominées subalternes peuvent reconstruire leur unité? C'est une composante essentielle, mais on ne peut pas faire l'économie du niveau proprement politique.
Oui, il faut être clair.
Et de la médiation partisane.
Voilà.
On ne peut pas tourner éternellement autour du pot et on ne peut pas tourner éternellement autour du constat suivant, qui est que, en gros, en France, pendant toute une séquence historique, avec toutes les limites, les contradictions et les aspects très très problématiques, pour dire les choses poliment, que ça a pu entraîner, le courant anticapitaliste se structurait autour du Parti communiste. Même les courants dissidents se positionnaient, ce n'est pas un hasard, par rapport au Parti communiste, en contestant en quelque sorte sa ligne, en apparaissant comme des anticapitalistes ou des révolutionnaires plus conséquents que le Parti communiste. Bon, cette séquence entre en crise à la fin des années 70, se désintègre au cours des années 80. Diverses tentatives ont été menées pour reconstruire ou tenter de reconstruire quelque chose qui ont tout échoué. Frédéric a mentionné, je suis d'accord avec lui, Frédéric Ruffin, par exemple, comme l'émergence de Frédéric Ruffin, comme François Ruffin, pardon, comme symptomatique de la période. C'est exact. Mais je tiens à rappeler qu'au cours des années 2000, on a vu des porte-paroles de petites organisations d'extrême gauche complètement obscures pour l'électeur moyen faire des scores non négligeables, supérieurs à ceux du Parti communiste, par exemple. Hein. Donc, Arlette Laguillier, Olivier Bozorno, pour les mentionner. Ces organisations ont tenté, d'ailleurs, à un certain moment, de construire quelque chose de plus large autour d'elles. Force est de reconnaître que c'est un échec. Bon, le dernier échec en date de constituer, bon, pas exactement un courant anticapitaliste, mais quelque chose qui se posait comme une force, disons, antagoniste par rapport à tout ce que le PS a pu représenter, c'est-à-dire la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, après avoir engrangé avec toutes les contradictions et les réserves qu'on peut avoir un résultat quand même historique lors de la présidentielle de 2017, a été incapable de construire sur la durée pour des raisons qui sont structurelles. Parce que là, c'est vraiment le modèle de cette proposition politique, le modèle de cette forme d'unification autour du chef charismatique et autour d'un discours dit populiste qui prétend agréger en quelque sorte des revendications sur des signifiants flottants et finalement, à mon sens, différents assez peu de l'attrape-tout, du catch-all, finalement, d'une version progressiste, bien évidemment, hein, du catch-all, évitant de toucher les points de clivage précisément fondamentaux et de les travailler et de les transformer. Et de progresser dans une tâche de construction, eh bien voilà, à l'heure actuelle, on paye aussi cet échec-là, d'où, à mon avis, le grand désarroi qui existe à l'heure actuelle et les mouvements de panique que je vois se développer autour de moi à l'approche de 2022 et au cauchemar d'une réédition du deuxième tour de 2017. Donc voilà, il faut quelque part clarifier, je crois, les données du problème. Et sans verser dans la dénégation, sans penser que par décret, parce qu'on n'aime pas ça, ces problèmes cesse de se poser. Moi, je crois que le grand apport, et ce n'est pas ici une question de faire des fleurs à Frédéric Lordon, qui n'a pas besoin de moi d'ailleurs pour ce genre de propos, je crois que la contribution de son travail, et à mon avis la ligne rouge de tout ce qu'il a fait, c'est précisément celle-là. Arrêtons de fonctionner par dénégation. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'État que la question de l'État, miraculeusement, va cesser de se poser. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le terrain de la politique institutionnelle qu'on peut contourner par magie, par une sorte de saut d'expérience de pensée ou par accumulation de petites expériences locales, ce terrain-là. Si on le déserte, d'autres qui l'occupent déjà vont l'occuper encore davantage et qui ne nous plaisent pas du tout, et qui vont nous entraîner dans des directions extrêmement dangereuses. Donc, il faut se coltiner tout ça.
Oui, alors justement, Frédéric, toi-même, donc, on te reconnaît cette grande qualité de refuser le déni, mais dans ta série de textes, la plus récente, là, à la fois, en fait, tu consacres énormément d'énergie à élaborer, en fait, le monde d'après, hein, pour lequel tu proposes une organisation, maintenant, macro-sociale, de plus en plus claire, hein, dans le signage des propositions de Bernard Friot, on y reviendra. Mais pour ce qui est de la transition, c'est-à-dire l'organisation des forces de renversement, tu donnes assez peu, en tout cas dans cette série-là récente, d'indications. Tu dis « la politique qu'appellera la sortie passe nécessairement par la rue ». On sait bien que la dimension insurrectionnelle est une composante essentielle de toute stratégie de rupture avec le capitalisme. Tu dis « il n'y a pas d'action de renversement sans une organisation de renversement ». On est bien d'accord, mais du coup, l'organisation de renversement, ça pose notamment la question du parti révolutionnaire éventuellement. Or, c'est une question sur laquelle tu t'es jusqu'ici à peu près jamais exprimé. Quid des partis existants? Quid d'un parti révolutionnaire à recomposer éventuellement à partir de l'existant ou bien en formant une nouvelle matrice? Jusqu'ici, on t'a pratiquement jamais entendu sur cette question.
Mais j'ai donné peu d'indications parce que j'ai peu d'idées. c'est ça la vérité.
Ça. Hein. D'accord.
Mais oui, c'est un problème extrêmement difficile. Moi, Je considère effectivement qu'on ne fera pas l'économie d'une organisation, mais je suis incapable d'arrêter une idée un peu précise quant aux formes qu'elle devrait avoir.
Bah, parti révolutionnaire, c'est un truc qui te fait peur?
Absolument pas, parce que, en effet, je pense que il y a un certain nombre de prohibitions qui ont colonisé l'imaginaire ou le discours de l'extrême gauche ou de certaines fractions de la gauche anticapitaliste et dont Statis rappelait les éléments, c'est-à-dire interdiction de penser la figure de l'État, la thématique de la souveraineté et à plus forte raison celle du parti. Sous couleur des avanies historiques parfaitement réelles que la forme parti a connues. Maintenant, je veux dire, quelle que soit la manière dont on l'appelle, oui, il faudra bien trouver un dispositif de coordination pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en face, ils sont coordonnés et que dans un jeu conflictuel comme celui que nous jouons, la prime va à ceux qui ont le plus de coordination. Je veux dire, ils ont de leur côté, ils ont l'homogénéité, les formes institutionnelles, l'intentionnalité commune, etc. Donc, si on reste à la lyrique de l'archipel ou de l'intransitif, si tu veux, on n'y arrivera pas. Quoi.
Attends, l'archipel, je vois, mais l'intransitif, je vois pas.
Ben, l'intransitif, c'est peu importe vers où on va. Ce qui compte, c'est le chemin, tu vois.
Ouais.
Et dès que quelqu'un indique une perspective stratégique, c'est un commencement d'autoritarisme.
Ah.
Bon, et oui, non, mais tu vois, alors c'est vraiment très problématique. Bon. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de reconstruire quelque chose à partir de ça. Quoi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans le texte que tu nous as proposé à la lecture, le texte de Mathieu Bonzone, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, qui peuvent sembler d'une très grande modestie. Mais après tout, est-ce qu'on n'est pas condamné à la modestie, hein, pour redémarrer? Et notamment, il y a cette histoire des mots d'ordre, des mots d'ordre flexibles, etc. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que quel est notre problème? Notre problème, ou la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la difficulté de reformer un bloc hégémonique. Avec ce que l'idée de bloc hégémonique suppose d'unité. à quelques degrés et d'une certaine manière, c'est-à-dire sous une certaine forme. Mais un bloc hégémonique qui, dans la situation qui est la nôtre, va nécessairement agréger des secteurs en lutte hétérogènes, diversifiés, etc. Mais ça veut dire qu'il faut tenir les deux ensemble, n'est-ce pas? Donc il y a une tension contradictoire entre une certaine sorte d'unité qu'emporte principalement l'idée de bloc hégémonique et la diversité de ses composantes. Mais je veux dire, fabriquer de l'homogène relatif à partir de l'hétérogène, c'est le problème même de la politique, hein, ouais. en règle générale. Et j'insiste, de l'homogène relatif, ce qui ne veut pas dire de l'uniforme. Ça n'a rien à voir. En général, c'est le genre de malentendu de lecture récurrent dans nos univers. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout le monde est passé à la même toise, hein, mais qu'à un moment, quand même, on se retrouve autour de choses déclarées communes. Alors moi, cette histoire des mots d'ordre flexibles, je trouve intéressant. Je trouve ça intéressant parce que précisément, c'est une première solution d'accommodation de cette tension contradictoire. Et bah, parce qu'il est bien certain qu'on ne va pas enrégimenter tous les secteurs en lutte sous la, tu vois, une unique bannière, mais il faut trouver les moyens de faire circuler des signifiants, ouais, qui réussissent cette performance d'être à la fois suffisamment génériques pour être transversaux et qui, tout en étant génériques, ne soient pas complètement creux.
Bon. Ah oui. C'est difficile. C'est le risque, hein. Parce c'est qu'à mesure risque. Où on monte en généralité,
non, mais bien sûr, on monte
en substance.
Et, exactement. Bon, moi, quand je réfléchis à parce que ce qui est intéressant, c'est que Mathieu Bonshomme lui-même fait quelques propositions
des
en cette matière.
Des pistes thématiques, mais pas vraiment.
Voilà,
des...
il fait quelques propositions en cette matière, mais assez curieusement, toutes ces propositions sont du même ordre, on va dire économiciste matérialiste. Ouais. C'est-à-dire ne font pas également justice aux autres types de luttes qui pourraient venir rejoindre le bloc hégémonique. Les luttes contre le racisme d'État, ouais, et les violences policières, les luttes contre la domination masculine, etc. etc. Bon. Alors, moi, en songeant à ça, il m'est venu l'idée de trois signifiants qui, à mon avis, pourraient avoir cette propriété de transversalité. Alors, je veux dire, ils ont le défaut de leur généricité, n'est-ce pas, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est égalité, justice, dignité. Bon. Si tu veux, c'est la réponse axiologique, c'est-à-dire sous la forme de valeur, à deux questions qu'on peut, alors là, pour le coup, énoncer de manière extrêmement prosaïque. À savoir, comment on vous traite et comment on vous parle? Et la réponse, c'est, on vous traite comme de la merde et on vous parle comme à des chiens. Et ça, crois-moi, c'est des questions et des réponses dans lesquelles, ouais, énormément de personnes, ouais, appartenant à des secteurs extrêmement divers peuvent se reconnaître. Ouais. Vraiment. Donc là, il y a un début de transversalité. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire, ça, ce sont des positions de valeur, en quelque sorte. Et idéalement, il faudrait réussir à les convertir en mots d'ordre, littéralement, au sens que, ouais, dit Mathieu Bonshomme. Alors ici, on a évidemment en tête la performance remarquable de Lénine en 1917, qui réussit dans un ensemble extrêmement compact d'énoncés à la fois parfaitement simples et extraordinairement percutants à condenser la totalité de la situation politique russe, et du pain pour les ouvriers, la paix pour les soldats, la terre pour les paysans. Et là, schlac, tu vois. Donc, mais malheureusement, j'ai peur qu'une performance pareille ne soit plus à notre portée, parce qu'entre-temps, si tu veux, la structure sociale, c'est par division du travail, division des pratiques extraordinairement complexifiés, différenciés, stratifiés, etc., et que la synthèse n'est plus à la portée de choses aussi simples. Donc il faut réfléchir à des trucs. Alors bon, je veux dire, là aussi, dans le registre de l'élaboration en chambre, mais après tout, qu'est-ce que tu veux, hein, on est des intellectuels en chambre, donc on est dans nos chambres, voilà, c'est tout, et on fait ce qu'on peut depuis nos chambres. Bon. Alors, ceci étant dit... moi, je pensais à cinq choses qui constituent un début d'opérationnalisation de la position des valeurs cardinales, ouais, égalité, justice, dignité. Et ces cinq choses, c'est, premièrement, la garantie économique générale. Bon, en gros, c'est le salaire à vie de Friot. Pour, ouais, moi, salaire à vie, c'est, si tu veux, je peux considérer que c'est conceptuellement pertinent comme appellation, mais c'est intordable dans le débat public. Bon, c'est impraticable.
À cause de salaire?
À cause de salaire, bien sûr. Ouais, c'est un point de malentendu.
D'accord. Alors, donc, pour toi, il faut reconvertir ça en garantie économique?
Peu importe les noms. Je veux dire, c'est des propositions.
D'accord.
La garantie économique générale. La souveraineté des producteurs associés, deuxième point. Le droit, alors là, je vais le dire d'une manière, je le sais, hein, d'une manière navrante. j'ai rien trouvé d'autre. D'autres feront mieux que moi. Le droit au cadre de vie. Tu vois, le cadre de vie, on se croirait revenu sous Giscard. Tu vois, il y avait un ministère du cadre de vie. C'était avant qu'on puisse dire le ministère de l'Environnement et même le ministère d'écologie, c'était impensable. Mais j'ai cadre de vie parce que c'est à la fois ce qu'on voit au dehors et ce qu'on voit au dedans de chez soi. Tu vois, ça inclut le logement, la qualité des logements, et pas seulement de l'environnement des logements.
Donc, tu mets toute la question écolo là-dedans ?
Absolument.
D'accord.
Le droit au cadre de vie, donc, le droit au temps, ce qui me semble un impératif. Bon. Et la dernière chose, liste tout à fait non exhaustive, l'exigence du contrôle démocratique citoyen de toutes les institutions. Voilà. Donc, garantie économique générale, souveraineté des producteurs associés, droit au cadre de vie, droit au temps, contrôle démocratique de toutes les institutions. Bon, je veux dire, il manque des trucs, les formulations sont imparfaites, mais déjà, peut-être, ça commence à concerner du monde.
Ouais, ouais.
Voilà.
Alors, tu as parlé du salaire à vie, qui est que tu rebaptises sous le signe de la garantie économique générale, qui est maintenant donc une proposition macro-sociale, macro-économique qui t'intéresse beaucoup parce qu'elle a le mérite de penser la division du travail, disais-tu. Sur ce terrain-là, celui notamment du salaire à vie, Statis, je n'ai pas l'impression que ce soit une direction que tu explores beaucoup. Je songe notamment au fait que tu as contribué à un manifeste qui s'appelle Recommends Europe, un manifeste pour un internationalisme des peuples en Europe. Hein, c'est un texte écrit à plusieurs mains, à plusieurs nationalités, qui propose de manière tout à fait enthousiasmante les premières mesures à prendre pour un gouvernement de rupture, hein, anticapitaliste, en envisageant tout le problème des représailles financières. Enfin, vraiment, c'est un super vademécum de n'importe quelle organisation de rupture qui veut prendre le pouvoir et changer les choses. Ça a le mérite donc d'être, en plus d'avoir été rédigé à plusieurs mains et avec une perspective européenne. Or, là-dedans, eh bien, sur la question salaire-travail, à aucun moment on envisage quelque chose qui relèverait d'une garantie économique générale. C'est-à-dire qu'on est encore sur des revendications d'augmentation des salaires, diminution du temps de travail, et pas du tout le cliquet supplémentaire que prend Friot, qui est de dire non, mais ce n'est pas moins de travail, c'est redéfinir qu'est-ce que le travail, c'est redéfinir la valeur, être souverain absolument sur la définition du travail et de la valeur. Ça, c'est la position de Friot, alors que là, dans Recommends Europe, on est plus dans un aménagement qui ressemble presque à un aménagement, presque comme si on était encore dans le cadre du capitalisme et de ses définitions du travail et de la valeur.
D'accord.
Donc peut-être parce que toi-même, tu as des réserves importantes par rapport à cette proposition-là.
Alors, bien. Alors, je commencerai par le premier point que Frédéric vient d'aborder dans son intervention, c'est-à-dire la question que tu as posée également, celle du parti, et du parti anticapitaliste ou révolutionnaire.
Bon. Ouais.
J'ai une trajectoire militante pour ce qui me concerne, à la fois en France et en Grèce, qui fait que je suis sans doute aussi un intellectuel en chambre, comme on dit. Je ne cache pas que mes ouvrages et la plupart de mes textes, je les écris effectivement dans mon bureau.
Mais tu l'es moins que moi.
Je ne saurais, je dois le confesser, ouais. C'est tout à fait exact. Mais par ailleurs, j'ai 40 ans maintenant de vie militante derrière moi, dans la politique organisée, dans la politique de partidaire aussi. J'ai même fait partie pendant quelques années de ma vie de la direction d'un parti politique en Grèce qui s'appelait Syriza, coalition de la gauche radicale, qui s'appelle encore toujours ainsi d'ailleurs, mais dont le titre est, il y a une dissonance évidente entre le nom de cette formation et ce qu'elle a fait concrètement dans la pratique depuis maintenant 5 ans. Bon, ce qui veut dire aussi que j'ai vécu, non pas tous évidemment, mais certains de ces échecs en étant partie prenante de ces échecs. Et bon, j'essaye aussi de réfléchir là-dessus parce que je fais partie de ces échecs, donc je fais aussi partie du problème. Hein, donc ce qui oblige aussi quand même à une certaine forme de modestie. Néanmoins, ceci étant dit, je crois qu'on ne va pas s'en sortir sans une forme de structuration qui est à refaire d'un courant anticapitaliste en France. Je crois que la seule façon d'arrêter cette irrésistible en apparence mouvement vers la droite de la gauche elle-même, Y compris d'ailleurs des forces qui, dans un premier temps, apparaissent comme des forces de contestation hein, de la gauche établie et dont on voit bien que, assez rapidement, en fait, elles se coulent dans le moule et que quelques années après leur constitution, on les retrouve dans des positions bon, qui sont déjà beaucoup plus portées vers une forme de centrisme ou de modération ou que les angles sont arrondis. Je crains fort, par exemple, que s'ils se confirment, la campagne de Mélenchon en 2022 aura beaucoup arrondit certains des angles les plus intéressants de la campagne de 2017. Je pense à des points comme l'Union européenne, par exemple, les traités européens ou l'atlantisme, par exemple, hein, où on a vu un Mélenchon beaucoup plus lisse hein, ces derniers temps. Donc, et ce qui faisait d'ailleurs la spécificité de la France, contrairement, par exemple, aux États-Unis, qui sont un cas que Mathieu Bonshomme discute dans son texte, hein, avec notamment autour des mots d'ordre de la campagne de Bernie Sanders, hein, bon, c'est que contrairement aux États-Unis, en France, on vit dans une société qui, malgré l'état actuel des forces politiques, a été quand même travaillé dans toute son histoire par la présence de courants autonomes, ouvertement anticapitalistes, révolutionnaires, quoi qu'on puisse penser après de leurs actes, hein, je veux dire, mais qui est profondément travaillé par ça dans tous les niveaux. En France, on a eu un syndicalisme de lutte de classe, on a eu un parti communiste extrêmement puissant, on a une social-démocratie qui a été longtemps minoritaire au sein même de la gauche, ce qui est tout à fait exceptionnel en Europe. Hein, il n'y a qu'en France, en Italie et peut-être un peu en Europe du Sud, on a eu cette configuration. Donc tout ça laisse des marques assez profondes qu'on voit d'ailleurs ressurgir dans les luttes sociales. Enfin, il y a un imaginaire anticapitaliste et une radicalité, y compris dans les dernières mobilisations, même s'il n'y a pas de cristallisation politique immédiate de cela, qui n'est pas pensable aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne, pays dans lequel j'ai travaillé pendant deux décennies. Bon, donc il faut être aussi à la hauteur de ça. Hein. Il faut aussi être à la hauteur de cette histoire, parce que cette histoire, elle est encore avec nous et heureusement, hein, en un sens. Hein. Ça, c'est la première chose. Il faut prendre acte aussi des raisons profondes qui ont empêché cet échec. Alors, pour ne pas être long, je dirais simplement que l'attitude autoproclamatoire, par exemple, de petits groupes qui se présentent révolutionnaires, etc., a à l'évidence échoué. Donc, ce type de démarche dont certaines organisations d'extrême gauche ont professé, ont essayé de mettre en pratique, a échoué. Mais a échoué aussi, je l'ai déjà dit, l'idée du chef charismatique comme point...
Pardon, mais je ne vois pas ce que c'est l'attitude autoproclamatoire. Est-ce que tu peux préciser? Parce que forcément, quand on...
Je suis l'avant-garde révolutionnaire, ralliez-vous à ma bannière. Je suis le noyau du futur parti prolétarien, petit à petit, en recrutant, petit à petit, en s'agglomérant et en intervenant activement, évidemment, dans les luttes. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement passif, mais en mélangeant une bonne agite-propre et une intervention efficace dans les luttes sociales qui vise à montrer qu'en tant que révolutionnaire, on est les éléments qui font avancer, en quelque sorte, les grands mouvements, on va construire un pôle qui va être en mesure, pourquoi pas, de postuler au pouvoir, par exemple. Hein. Bon, ce genre de démarche ainsi conçue a été d'innombrables fois tentée depuis 68 à peu près dans tout le monde. Nulle part, elle n'a réussi à renverser, disons, à produire un effet significatif, pertinent, à conduire à une victoire ou même à un succès politique un tant soit peu durable. Bon, donc il faut prendre acte de ça. Les tentatives des années 2000 étaient déjà des tentatives plus complexes, hein, où il s'agissait de faire ce qu'on appelle des recompositions, c'est-à-dire de voir que des courants venant d'origines diverses pouvaient converger autour d'une sorte de parapluie commun. Hein. Donc on a eu ces partis relativement hétérogènes. Syriza en était un, par exemple. Hein. En France, on a eu un peu de ça avec le Front de Gauche, on va dire. Hein. Mais il y a eu d'autres expériences. Hein. On peut penser à Die Linke en Allemagne, pendant sa première période, notamment. La Gauche Unie, le Bloc de Gauche au Portugal, l'Alternative Rouge et Verte au Danemark. Enfin, il y a eu plusieurs expériences, disons, de recomposition de ce type. Mais leur caractéristique, c'était que il s'agissait en quelque sorte de reconfigurer des courants déjà structurés de divers espaces politiques à gauche. Bon, ça a donné des résultats, hein, ça, pour le coup. Hein. Ça a pu donner, d'ailleurs, avec Syriza, le résultat, dans un moment de crise politique, d'un parti qui a pu arriver jusqu'au pouvoir gouvernemental. Hein. Et là, on a vu aussi, évidemment, les faiblesses profondes, inhérentes à ce type. Donc, il faut aussi tirer les conclusions, de ça. Ça, c'est une chose. Pour revenir à la question dont tu posais, je crois qu'il faut essayer de clarifier un peu les choses et je voulais aussi questionner Frédéric à ce sujet. Moi, je suis, il est vrai, un peu réticent vis-à-vis d'une démarche qui consiste à inventer ou à penser, à concevoir, en chambre ou à plusieurs, hein, ce n'est pas la question, une sorte de mécanisme magique qui permettrait de résoudre en quelque sorte la question, que celui-ci s'appelle, par exemple, revenu universel ou salaire à vie. Je crois que d'ailleurs, il faut quand même pas mal clarifier ce débat, parce que je crois qu'il y a au moins une manière de comprendre le salaire à vie qui, en réalité, n'est pas si différente de ça du revenu garanti, on va dire, hein, pas universel, mais du revenu garanti, avec notamment l'idée que l'emploi et le salaire ou le revenu doivent être complètement déconnectés. Et je suis réticent pour deux raisons qui sont étroitement liées. Le premier, c'est que ce genre de perspective ne nous explique jamais quelles sont les conditions politiques de leur réalisation, mmh. et notamment quid du pouvoir d'État, du pouvoir gouvernemental et des élections. Mmh. Bon. Et là, le texte que tu mentionnes se donne une première, disons, réponse qui est de l'ordre de la stratégie, c'est de dire qu'une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante, pour avancer dans le sens d'une rupture, aussi bien avec le capitalisme néolibéral qu'avec le capitalisme tout court, consiste à former un bloc majoritaire, social et politique, capable de gagner des élections, ouais. capable de conduire au pouvoir un gouvernement populaire, mais évidemment articulé avec toutes les tensions et les difficultés que ça pose, pas avec une mobilisation populaire et une mobilisation par en bas. Ça, c'est déjà une première, orientation. La deuxième orientation, la deuxième différence que j'ai avec ça, et je précise tout de suite que ça ne concerne absolument pas la façon dont Frédéric pose le problème, c'est que derrière ces idées de mécanismes quand même un peu magiques, hein, qui passent par la cotisation sociale dans la version Friot ou par le revenu garanti et dans ces diverses variantes qui ne sont pas toutes à mettre au même niveau, bien sûr, hein, mais quand même, on contourne, je répète, Frédéric ne le fait pas, la question fondamentale qui est la question du capitalisme, c'est-à-dire la question de la séparation entre les producteurs et la collectivité et les moyens de production. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire le dépassement, notre but n'est pas la généralisation du salariat, c'est l'abolition du salariat, au moins tel que Marx définit le terme, parce qu'après, évidemment, les mots peuvent devenir des signifiants vides et on met n'importe quel contenu dedans. Mais enfin, la condition salariale, c'est-à-dire le fait que la force de travail est une marchandise, veut dire que la force de travail est séparée du contrôle effectif, pas simplement de la propriété juridique, mais du contrôle effectif de la production, du processus de production, et la division du travail capitaliste qui se poursuit à l'infini en est évidemment le résultat inhérent. C'est ça le cœur de la question. Alors, comment avancer dans cette direction, étant donné que pour toutes les raisons que nous avons mentionnées auparavant, la question immédiate de la conjoncture, à mon avis, n'est pas celle d'abolir la propriété privée des moyens de production, mais d'avancer vers des formes de contrôle social et collectif de l'économie et de renverser la chape de plomb que le néolibéralisme a imposée au cours de toutes ces dernières décennies, pour renverser la vapeur en quelque sorte et instaurer un autre rapport de force qui va mettre l'anticapitalisme à l'ordre du jour immédiat. C'est un peu étapiste, je l'admets, mais j'assume. J'assume cet aspect-là. Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et je voudrais peut-être que, c'est la question que je voulais poser à Frédéric, comment est-ce que la lecture et la reprise qu'il fait de certaines des propositions de Friot permet de répondre à cette double question qui est, à mon avis, tout à fait centrale pour un projet politique, une perspective politique anticapitaliste aujourd'hui.
Bon, c'est marrant parce que c'est caractéristique. On bute à nouveau sur toute une série de controverses sémantiques dont malheureusement Friot a lui-même créé les conditions. Quoi. Je ne crois pas lui être infidèle, c'est embêtant, c'est lui qui devrait être là à ma place, donc je me trouve à ventriloquer une pensée qui en première instance n'est pas la mienne, même si je la reprends à mon compte et j'essaye d'en faire quelque chose. Hein. Donc ça c'est ma part aussi, je veux pas ne pas l'assumer. Mais dans mon esprit, le salaire à vie chez Friot est précisément l'instrument du dépassement du salariat conçu dans les termes du marxisme traditionnel. Alors il est évident que sur la base d'un choix de signifiant pareil, les malentendus ne peuvent que s'en suivre. Parce que le corrélat immédiat du salaire à vie, c'est la destitution de la propriété lucrative et la remise des moyens de la production à la propriété d'usage, à la propriété. Donc c'est vraiment, c'est une forme très proche du dépassement communiste marxiste d'un dépassement du capitalisme.
Qu'est-ce que tu appelles par propriété d'usage? Parce que la valeur d'usage, c'est
ah non, oui, ça n'a, là, ça n'a rien à voir. La propriété d'usage, c'est que c'est l'équivalent d'un usufruit dans l'ordre de la production, si tu veux. Il y a des biens et en sont les usufruitiers ont le droit de les utiliser et de les faire fonctionner, ceux qui collectivement ont décidé de s'en emparer. C'est un concept extrêmement local.
Ont décidé de s'en emparer
Donc, par exemple, tu convertis…
Donc au niveau des entreprises, des lieux de production…
Au niveau des entreprises, absolument. Donc c'est une forme de propriété socialisée locale, qui n'est pas du tout une forme de propriété nationalisée, étatique, etc. Ça passe évidemment par... Ça ne peut pas ne pas passer par la conquête de l'édifice institutionnel, État en tête, puisque c'est de là qu'on refait le droit, et que là, c'est une modification qui appelle une recodification juridique absolument fondamentale, la destitution d'une certaine forme du droit de propriété, et la réinstitution d'une toute autre forme recodifier, mais à recodifier dans des formes qui ne sont plus du tout les formes du capitalisme. Plus du tout. Bon. Mais encore une fois, évidemment...
Excuse-moi, si c'est local, comment tu résous le problème de coordination entre ces diverses unités? Parce que dans le système actuel, ce système de coordination,
ça s'appelle... C'est le marché.
Le marché,
absolument.
Exactement. Ça s'appelle le prix, le mécanisme des prix. Bon, on a essayé de s'en passer en URSS avec un système d'économie administrée et en manipulant les prix. Bon, on a vu les résultats. On sait que ça ne se passera pas comme ça. Mais quel est le mécanisme de coordination qui va empêcher une sorte d'éclatement, total, avec des choses qui tirent à U et à Dia, avec des choses absolument absurdes. C'est-à-dire, moi, je ne vous cache pas que je suis absolument contre la socialisation locale de la centrale de Fessenheim, par exemple. Parce que si c'est les salariés de Fessenheim qui décident du fonctionnement de la centrale de Fessenheim, et son fonctionnement ne serait pas étendu pour 3 ans, mais pour 3 siècles, je le crains.
Non, dans les logiques de socialisation défendues par Friot, il n'y a jamais une délibération qui serait exclusivement dédié aux usagers, les travailleurs. Oui. Par exemple, typiquement sur le nucléaire, c'est évidemment pas juste les travailleurs du nucléaire qui vont décider du destin du nucléaire. Évidemment qu'on mobilise les résidents, les usagers et aussi
une volonté
les représentants quand même d'une sorte de pouvoir centralisé. Il est attentif à ne pas complètement jeter l'idée.
C'était une petite provocation, mais je ne sais pas si la proposition de Friot permet de poser la question du pouvoir sur le lieu de production au sens large du terme. C'est pas simplement les usines, c'est tous les lieux où s'opère justement le fonctionnement, on va dire, économique au sens très large de la société, parce qu'il considère comme référent et comme modèle des mécanismes comme la sécurité sociale, comme les réformes d'Ambroise Croizat, dont le socle était quand même ce que l'école de la régulation a appelé la norme salariale, la norme fordienne, et qui ne peuvent pas exister sans elle. C'est-à-dire, bon, la retraite et la retraite des fonctionnaires, c'est très bien, mais enfin, elle présuppose que justement, il y a une norme salariale telle qu'elle a existé sous le régime fordien qui a rendu cela possible. La remise en cause de l'un a entraîné inévitablement la remise en cause de l'autre, c'est ce à quoi on assiste à l'heure actuelle. Donc, quelle est la torsion que tu imprimes, en quelque sorte, à ces idées?
Moi d'abord, je pense qu'il y a, si tu veux, il y a un différend absurde que Friot se plaît à entretenir avec l'école de la régulation. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, c'est vraiment une divergence de lecture sur la nature des transformations qui se sont opérées avec le surgissement des institutions de l'État-providence, de la sécurité sociale, etc., etc., où Friot a son interprétation, à lui, les régulationnistes ont la leur, et en réalité, moi, ça me semble des interprétations qui, si elles sont différentes, ne sont absolument pas contradictoires. Moi, ce que je crois, c'est que Friot méconnaît cet enseignement de base de la théorie des institutions, c'est que les institutions connaissent un cours qui n'est pas la réalisation conforme de leurs conditions initiales, de leurs conditions de naissance. Il peut y avoir des dérives tout à fait extravagantes et que l'ambivalence est inscrite dans les logiques institutionnelles mêmes, qui peuvent se retrouver simultanément porteuses de deux types de rationalité ou de deux types de logique politique, jusqu'à un certain point de contradiction qui, évidemment, appelle des résolutions dans un sens ou dans un autre. Hein. Ça va sans dire. Maintenant, moi, la réappropriation que pour mon compte, je perds de la proposition de Friot insiste sur un point qui me semble tout à fait central en cette matière, mais même plus généralement, qui est sa dimension multiscalaire. Je pense qu'il faut absolument sortir de l'antinomie ruineuse, mais là, je pense que je vois pas que tu sois en désaccord avec moi là-dessus, entre une espèce de localisme d'horizontalisme localiste sans rivage et d'exclusivisme vertical étatique, etc. Ce sont des positions de problème absurde, et il faut en sortir. Et le terme conceptuel pour en sortir, précisément, c'est la multiplicité des échelles d'organisation politique et de distribution du pouvoir. Donc, évidemment, si je te suis assez sur ton expérience de pensée de la centrale de Fessenheim remise aux travailleurs et à la municipalité de Fessenheim, ça pourrait très mal se passer. Mais là, en l'occurrence, le guidage se fait en partie par l'investissement. Alors, il y a chez Friot, il y a un instrument de socialisation, non pas du financement, mais du subventionnement, parce que ce n'est pas la même chose, hein. un instrument de subventionnement de l'investissement qui opère un guidage lui aussi multiscalaire, c'est-à-dire avec des objectifs généraux et puis des interdictions qui sont formulées au plus haut niveau. On dit non, ça, je veux dire, ça c'est fini, hein, dans la société, cette merde-là, on ne la fait plus. Bon. Et puis après, ça se distribue, tu vois, au niveau territoriaux inférieur jusqu'au niveau locaux, les plus locaux s'il le faut, mais à concurrence de la pertinence qu'il y a à remettre la décision au niveau local, et pas au-delà, bien sûr. Donc, effectivement, on ne va pas laisser la mairie de Fessenheim décider seule du destin de la centrale. Et moi, je pense que cette architecture institutionnelle multiscalaire c'est potentiellement dans la proposition de Friot, même si, à ma connaissance, il ne le développe pas très explicitement. Mais je pense que c'est un prolongement qu'on peut lui offrir sans faire violence ou contradiction avec la logique générale de sa pensée. Donc voilà, pour moi, c'est ça le point. Alors maintenant, tu posais une autre question qui était, mais alors c'est quoi finalement le dispositif de coordination, puisqu'il reste quand même des unités productives locales coordonnées à minima par le guidage de l'investissement dans cette architecture institutionnelle multiscalaire. Et qu'est-ce qui reste comme procédé de coordination? C'est le marché, tu as bien raison. Et moi, très honnêtement, je ne suis pas en état de penser que nous nous affranchissions du marché. Du marché entendu sous la forme suivante. Un système d'échange monétaire, parce que je pense que maintenir la division du travail dans un État qui ne nous fasse, tu vois, pas tous vivre dans des huttes, etc., ne peut pas en passer par un autre médium que le médium monétaire. Alors éventuellement, tu vois, dans des périmètres dont nous aurions collectivement discuté de la réduction, hein, ça va sans dire. Et le marché entendu comme un système de validation sociale, de proposition privée décidée sur une base autonome, en effet. Donc oui, moi je ne vois pas comment on peut sortir, plus exactement, je ne me sens pas en état de défendre une proposition de sortie radicale de l'ordre du marché et de la monnaie. Voilà.
Bien. Bon. Moi, j'en vois une.
Ah, j'achète.
Bon,
celle, c'est le marché.
Alors,
le marché,
on sera d'accord sur le fait que le marché ne peut pas s'abolir du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est évident. C'est irréalisable. Essayer ce genre de forçage, ça a déjà été fait. Hein. Je rappelle l'exemple du Cambodge sous un certain Pol Pot. On a décidé d'abolir la monnaie quasiment du jour au lendemain. Bon, on voit que ça ne peut que donner que des formes de militarisation, on va dire, totale de la société. Donc, non. Ou bien des formes qu'on a vues de pathologie, de gaspillage, enfin, et précisément, d'ailleurs, ce grand paradoxe de l'économie soviétique qui consistait à dire qu'une économie planifiée était en fait de moins en moins planifiée, en quelque sorte, hein, et de plus en plus développer une forme d'anarchie qui était différente, même si ce n'était pas celle du marché. Par contre, je crois qu'il faut réhabiliter l'idée d'une planification décentralisée et démocratique.
Hein, absolument.
Avec des mécanismes de coordination, avec des mécanismes de coordination qui ne passent pas par les prix, qui concernent certains secteurs dans lesquels il est possible, je crois, d'aboutir à des formes de calcul et d'évaluation qui sont tout à fait tenables et qui d'ailleurs ont partiellement existé, y compris sous l'époque fordienne. Hein, je crois qu'il est parfaitement... Et je crois que c'est quelque chose que la nécessité de répondre à la destruction écologique nous pousse inévitablement. Moi, je crois que l'une des idées les plus intéressantes de la campagne de Mélenchon en 2017, c'était l'idée de la planification écologique. Et que c'était un biais, justement, par lequel, y compris le terme planification, a pu être réintroduit et rediscuté et regardé d'un autre œil que comme l'épouvantail associé à l'expérience soviétique des pays de l'Est. On ne sortira pas, je crois, de la logique de destruction écologique qui est inhérente au capitalisme, mais pas qu'au capitalisme, aussi à une certaine forme, disons, de ce qui s'est appelé socialisme, sans une forme de planification, mais une planification qui est, elle aussi, multiscalaire. Hein. Ça, je rejoins totalement. Le désaccord peut-être plus philosophique qu'on a avec Frédéric consiste à l'idée qu'il continue à penser la démédiatisation comme une sorte d'objectif souhaitable, alors qu'à mon avis, au contraire, il faut assumer radicalement les médiations.
Oh, c'est un malentendu peut-être
de l'ordre du malentendu. Bon, donc, il y a, je crois, ces discussions à mener sur le terrain économique, mais il y a aussi, et je te rejoins, Frédéric, quand tu dis qu'il y a aussi l'aspect politique qui est absolument nécessaire. Il faut réfléchir aujourd'hui à ce que signifie une rupture avec l'ordre politique qui existe.
Oui.
Et là, je crois qu'on sera assez d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de préalables à penser une rupture démocratique avec ce régime de plus en plus autoritaire, répressif, et qui dépossède littéralement la population et les travailleurs de ce pays de tout contrôle sur leur vie et sur les décisions les plus élémentaires et à la fois les plus globales. Premièrement, il faut en finir avec la Ve République. Je veux dire, si on n'a pas de rupture par rapport au système présidentiel, il faut que ce soit affiché. Alors on peut discuter des formes que ceci peut prendre, des médiations nouvelles à inventer, des formes participatives, des formes de démocratie semi-directe, enfin tout ce qu'on veut, mais il y a un préalable à ça, c'est qu'il faut en finir avec la Ve République. Chose qui n'existait pas, parenthèse, dans le programme d'Union de la gauche de 1972. Sans doute l'une des béances, pas la seule, de ce programme, mais qui en dit long, hein, c'est un symptôme tout à fait révélateur, beaucoup plus que la plupart des gens le croient, qui étaient à chicaner sur le fait qu'il n'y avait pas assez de nationalisation, il n'y avait pas assez de contrôle ouvrier au niveau des entreprises, etc. Première chose. Deuxième chose, il faut une rupture avec les traités européens et avec mécanisme qu'on appelle l'Union européenne. Bon, sinon, je veux dire... Si, et pour moi, c'est un critère essentiel, ce n'est pas le seul, hein, c'est un critère absolument essentiel pour distinguer la rupture du replâtrage. Hein. Dans le contexte où nous sommes, à cause de toutes les faiblesses et du désarroi qui existent, il y a un mouvement de panique qui consiste à faire une sorte de replâtrage. Le texte dit des 150, on est à mon avis l'exemple type, justement, 150 personnalités de la gauche, hein, essentiellement du PS et de sa mouvance, mais pas que. Et ce qui est importe, c'est le « pas que », justement,
c'est vrai.
Ça, c'est le replâtrage. Et il y a un critère très simple par rapport au replâtrage, c'est est-ce que vous êtes disposé à affronter la Banque centrale européenne, y compris dans la logique et les mécanismes de l'Union européenne, y compris avec les 750, les plans de relance, dont les conditionnalités et les conditions concrètes, hein, parce que le diable se cache toujours dans le détail, ne nous sont pas encore communiquées. Hein. Bon, donc il faut arrêter de croire que ce niveau ne fixe pas un terrain absolument stratégique de l'affrontement. Bon, je parle évidemment à partir de l'expérience grecque, mais pas que, hein, pas que. Bon, on a vu que si on veut se maintenir dans ce cadre, on ne peut pas avancer ne serait-ce que d'un pouce dans la direction de la rupture. Et il y a un troisième front, et là, évidemment, je rejoins totalement à la fois ce que Frédéric a dit dans ses derniers textes, mais aussi ce que le manifeste Recommons Europe présente, c'est la nécessité de rompre avec les mécanismes de la finance. Hein. Donc, la nécessité d'une socialisation des banques qui se sont gavées littéralement d'argent public et d'aide publique et de subventionnement. Alors là, le capitalisme connaît très bien le subventionnement pour ses propres intérêts. Hein. Et la finance est directement et indirectement copieusement arrosée pendant toute cette période. Donc oui, la socialisation des banques est un mot d'ordre radical, simple, extrêmement populaire. Hein, je crois que la profession de banquier est parmi les plus détestées à l'heure actuelle, non seulement en France, mais dans le monde entier. Ça me paraît, on peut jouer sur du velours, à mon avis, en poursuivant sur ce terrain, et arrêter avec ces propositions extrêmement timorées, par exemple, d'un simple pôle public d'investissement, etc., qui sont tout à fait insuffisantes, vu la configuration que le capitalisme a pris au cours de toutes ces dernières périodes. Donc là, je crois qu'on a déjà quelques points, quelques axes qui permettent à la fois de définir des objectifs qui sont radicaux, mais pas déconnectés de l'expérience de la population, hein, de l'expérience de la société aujourd'hui, à l'heure actuelle, et qui permettent à la fois peut-être d'unifier et de faire des lignes de clivage aussi.
Alors, tu avais aussi évoqué, parmi les points de clivage, enfin, tu démarrais en disant pas de perspective politique commune avec des forces qui ont participé à la mise en place de cet ordre néolibéral. Hein. Donc, PS, ELV, PC, s'il n'y a pas un examen critique rigoureux de leur propre compromission, de leur propre responsabilité dans l'ordre du monde que nous combattons aujourd'hui, alors absolument aucune alliance possible.
Je fais une différence entre ces organisations en tant qu'appareil politique et un grand nombre de militants et de cadres qui sont, par contre, soit qui en proviennent, hein, ou qui sont en rupture avec ce type de logique. Hein. Après tout, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a passé l'essentiel de sa vie à l'intérieur du Parti socialiste, mais est venu un moment où il a rompu, hein, et il n'est pas le seul. Hein. Jérémy Corbyn, d'ailleurs, est resté à l'intérieur du Parti travailliste, mais on a bien vu le fossé qui le séparait, justement, du reste de son propre parti, justement. Hein. Oscar Lafontaine avait auparavant rompu en Allemagne. Dans un sens intéressant. Donc il y a bien entendu des gens qui viennent du courant social-démocrate et qui peuvent se positionner dans une logique de rupture, peut-être inaboutie, inachevée, mais avec lesquels il est possible de faire un bout de chemin. Hein. Moi, il faut absolument sortir de la logique des sectarismes et d'un certain maximalisme qui fonctionne comme soi-disant garantie d'une radicalité. Non, la radicalité, c'est savoir où se situe la vraie ligne de démarcation dans l'affrontement de classe et dans l'affrontement politique. Et dans l'immédiat, c'est la rupture avec la logique néolibérale, c'est la rupture avec la logique autoritaire, c'est-à-dire la logique démocratique signifie aussi, évidemment, l'aspect égalitaire, le refus radical du racisme, des discriminations raciales. Ça signifie aussi un féminisme qui n'en reste pas simplement à un aspect du problème, mais qui considère aussi le fait que ce sont les femmes qui font l'écrasante majorité des boulots de merde dans cette société. Hein, sinon, c'est le féminisme de Hillary Clinton, par exemple, qui risque de l'emporter. Donc voilà, c'est tout ça, à mon avis, qu'il importe de mettre sur la table.
Tu parles de la profession de banquier si injustement décriée. Tu as vu la dernière de Boris Johnson ? Il a invité les gens à se mettre à la fenêtre à 20h pour applaudir les banquiers. Voilà. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les infirmières, tu vois, qui méritent notre reconnaissance. Bon. Sérieusement, je voulais revenir d'un mot sur l'idée de la planification. Je veux dire, là, je pense qu'il y a effectivement, il y a quelque chose de... Il y a un point très important. Hein. Tu connais aussi bien que moi, et même certainement mieux encore, Cédric Durand et Razmig Kecheyan. Ils ont beaucoup écrit sur ces questions-là. Ils ont publié dans Contre-temps, etc. Et ils rappellent à bon droit ce qu'on sait depuis un certain temps, c'est-à-dire que le paradoxe succulent du capitalisme, des mastodontes de la période, pratique intensément la planification à l'intérieur de ses murs. Je veux dire, une entreprise comme Walmart, par exemple, pour parler d'Amazon, c'est pas le système des marchés internes, hein, c'est la planification avec les moyens de calcul qui vont avec, etc. Donc, il est évident que la planification a un rôle tout à fait important à jouer, qui permet en effet de faire régresser le mécanisme de coordination par le marché, puisque de toute façon, faire régresser, c'est... Alors là, pour le coup, c'est le mot d'ordre qu'il faut appliquer à un grand nombre d'items caractéristiques du capitalisme. Et à mon avis, la planification, effectivement, elle a un double rôle à tenir, un rôle dans l'orientation de la division du travail et un rôle dans sa coordination interne, un rôle dans l'orientation du travail. C'est ce que j'évoquais au travers de la possibilité du guidage par l'investissement. Mais alors là, en effet, typiquement, la planification est un outil qui est requis par ces opérations de guidage. Orientation de la division du travail, à propos desquelles j'insiste sur le fait que parmi ces orientations, il y a également des réductions de périmètre. Autant qu'on le peut, mais évidemment pas au-delà d'un certain seuil, puisque ça, alors après, ça se connecte à nos façons de vivre, nos normes matérielles, etc. Donc l'état de notre désir commun en ces matières, bon, qui mettent un point aux réductions qu'on peut, aux régressions qu'on peut infliger à la division du travail, mais on a de la marge. Il y a quand même un nombre de saloperies dont on peut se défaire, évidemment sans peine. Donc la planification convoquée dans l'opération de guidage de l'investissement et d'orientation des restructurations de la division du travail et dans les opérations de sa coordination interne entre pôles producteurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors je trouve que moi, les trois conditions que tu énonces dans ton article qui discute le texte de Mathieu Bonshomme, tu te doutes que je les partage. Là où je trouve que le manifeste pourrait aller plus loin, c'est sur la question, précisément sur la question des formes de la finance. Parce que moi, la socialisation des banques ou par exemple la fermeture de la bourse des actions, c'est des choses qu'il me semblait possible d'envisager il y a déjà un certain temps. Alors c'est là que j'en reviens, à Friot, parce que la logique du subventionnement par la cotisation redistribuée au travers de ce qu'il appelle les caisses économiques me semble franchir une étape supplémentaire qui est la rupture avec la logique même de ce qu'on appelle à proprement parler le financement. À quoi se substitue le subventionnement ? Conceptuellement, ce n'est pas la même chose. Le financement, c'est une logique de l'avance recouvrable. Il y a un acte d'émission d'une dette par une entité qui est nécessairement créancière. Et la dette, alors évidemment, dans des conditions de sélectivité, de l'octroi, de taux d'intérêt, etc., qui peuvent être très très différentes de ce qu'il y a dans le système bancaire sous domination actionnariale, la dette, c'est quand même quelque chose qui crée une servitude et qui crée une obligation de remboursement, donc qui proroge les figures cardinales du débiteur et du créancier. Ce que ne fait pas, ce avec quoi rompt la logique du subventionnement par la caisse économique. Et c'est ça, ça me paraît intéressant, ça. Ça me paraît une piste intéressante à travailler, parce que là, il y a une possibilité d'émancipation radicale avec le schème de la dette même, bon, qui pose tout un tas de problèmes absolument, absolument épineux. Donc avoir une solution en cette matière, je pense que c'est... Et le subventionnement, c'est de l'avance non recouvrable. Donc ça, c'est évidemment tout à fait important. Alors maintenant, il y a des choses que tu as dites à la fin de ton intervention, là, sur lesquelles j'aurais tant voulu qu'on puisse discuter en longueur, mais là, on va pas avoir le temps. Hein. D'abord, il y a la question, évidemment, de la rupture avec le régime répressif. Alors, il aurait fallu qu'on ait du temps pour parler de ça, hein, parce qu'effectivement, tu l'as dit dans ton introduction, Judith, hein, on est sorti d'une séquence de lutte sur le thème particulier du racisme et de la violence dans la police. Évidemment, c'est un sujet de première importance. Alors, quelle place, comment on l'intègre dans le paysage d'ensemble des luttes, etc. C'est une question extrêmement épineuse et qui mériterait d'être discutée analytiquement de manière... Tout à fait méticuleuse.
Bon, moi, sur la question des violences policières et de la place que ça prend dans notre propre logiciel politique, c'est
oui.
ça ? Est-ce que c'est central ou est-ce que
voilà, exactement. Et bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avant l'émission en me disant on va parler de ça, et ouais. Donc j'en ai long comme le bras à dire, ouais. Mais beaucoup trop long. Donc là, ça sera pour une autre fois. Et de même, la question de l'intégration des luttes déracisées, des luttes des femmes, etc., qui suppose qu'on réfléchisse à leurs modalités propres pour, évidemment, que ça soit des luttes qui s'inscrivent dans un paysage globalement anticapitaliste, puisque tu sais bien qu'il y a des modalités de ces luttes qui alors ignore totalement la problématique anticapitaliste. Et puis, bon, voilà, il y a aussi voilà, y a la question de ce qu'est en train de devenir la police en France, quoi. Hein. C'est, bon, qui est aussi une question...
Oui, que Statis a évoqué tout à l'heure, l'autonomisation.
Oui, ouais, que Statis a évoqué. Moi ouais. Là aussi, j'ai beaucoup de choses à
mais
dire.
Ne te censure pas trop, quand même. Écoute, on est en train de faire une longue émission. Oui, je ne veux pas que tu repartes complètement frustré.
Non,
de
pas avoir pu... Mais écoute, alors, ça serait peut-être une manière d'accrochage avec... ou d'accrochage et d'extension avec ta perspective de rupture avec les institutions de la Ve République. Comment dire, on est évidemment dans une dynamique de fascisation rampante, et même de moins en moins rampante, de plus en plus cavalante, qui est tout à fait inquiétante. On connaît bien l'obstacle, enfin la difficulté avec le thème de l'antifascisme. Si tu veux, il a été démonétisé par des usages abusifs de très très longue date. Hein. Chirac était fasciste, Giscard était fasciste, etc. etc. Bon, sauf qu'il y a un moment où, effectivement, le fascisme arrive et il s'agit de le dire pour de bon. Bon, c'est quoi l'un des lieux institutionnels de macération du fascisme en France, c'est la police. Hein. Enfin, c'est manifeste. Il y a à la tête de la préfecture de police un authentique fasciste. Bon, nous ne sommes pas dans le même camp, on laisse les identitaires faire les marioles sur un toit face à la place de la République, on les exfiltre plus qu'on les interpelle, etc., etc. Et alors à ce moment-là, là, les gens disent mais, oh là, attention, regardez, ce brave Didier Lallemand, il parle toujours de la défense des institutions de la République, c'est un républicain. Bon, moi ici, je pense toujours à cette phrase d'Orwell qui dit « Lorsque les fascistes reviendront, ils porteront un chapeau blond et un parapluie roulé sous le bras ». Et je trouve que c'est une phrase extraordinairement profonde, puisqu'elle nous signifie, d'une part, que nous n'avons pas le concept de fascisme, et d'autre part, que lorsqu'il reviendra, ça sera sous des formes absolument inédites. Et c'est ça qui indique que nous n'en avons pas le concept général, celui qui passerait sur une variété de réalisations réalisation historiques. Et alors le truc, moi, dans cette affaire, c'est que le signifiant, qui est en train de... C'est important, ces questions de signifiant, ces questions de langage. Hein. L'énorme paradoxe, incarné d'ailleurs par la figure de l'Allemand, hein, c'est que le signifiant auquel est en train de se lier la dynamique de fascisation du pays, c'est le signifiant république et républicain. C'est assez terrible. Hein. Et c'est ça, hein, le chapeau, l'équivalent français du chapeau melon et du parapluie roulé sous le bras, de plus en plus, c'est république et républicain. République et républicain, c'est devenu le lieu d'élection de ce que j'appellerais la gauche d'extrême droite. Je veux dire, il y a une gauche de droite et une gauche d'extrême droite, dont le personnage le plus éminent est Manuel Valls, par exemple. Bon, donc que faire ?
Ou Castaner, qui vient du PS.
Castaner qui vient du PS. Alors, tu vois, c'est le problème des signifiants, en voie de pourriture. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les relève ? Est-ce qu'on les abandonne ? C'est une question qu'il fallait se poser, par exemple, dans un tout autre ordre d'idée, bien sûr, avec le signifiant communiste. Il est tellement grevé. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt l'abandonner ? Moi, j'ai tendance à avoir de la sympathie pour les gens qui redressent la bannière, là. Alors, République, moi, jusqu'à il y a quelques années, République, j'essayais d'en faire quelque chose qui contourne, tu vois, qui contournait, là, le bac à compost, hein, tu vois. Mais de plus en plus, je me demande si ce signifiant n'est pas complètement...
Il faut le leur laisser, alors. On le laisse à l'adversaire,
ouais. Est-ce qu'il faut le laisser à l'adversaire? Je ne sais pas.
Alors, c'est important. Là, on est sur la question des langages partagés, dont tu disais toi-même dans ton texte que c'est important, hein, de se mettre d'accord sur les signifiants. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose, le signifiant république, et celui de communisme, si tu as une réponse à faire sur qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là, qui désigne un processus qui nous intéresse. On rappelle que le communisme, c'est le mouvement réel de subversion de l'ordre existant. Hein, donc, le mouvement nous intéresse, mais le mot communiste est souillé.
Je ne suis pas certain que le mot d'une république sociale soit totalement inaudible, mais ce qui me paraît absolument certain, c'est qu'il faut, par exemple, se rejeter complètement cette idée de police républicaine. Hein. La police est par nature même un instrument qui est au service d'un certain ordre social. Voilà. Tant qu'on reste dans la problématique de la police républicaine, on peut protester contre des violences ponctuelles, mais pas contre la logique profonde de cette institution.
Il faut concevoir une police qui ne soit pas une police de la République. Donc il faut repenser la police comme institution.
Ce que je suis en train de dire, c'est que, par exemple, du côté de la France insoumise, où on proteste vigoureusement contre les violences policières, dont les membres et même les dirigeants sont parfois victimes d'ailleurs, hein, on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes par exemple, mais où on s'accroche au concept de police républicaine, on ne fait pas donc une analyse, je suis désolé du terme, mais une analyse de classe tout simplement, des institutions et de leur contenu, c'est-à-dire au fait qu'elles sont produites et au service d'un certain ordre social. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des formes de contrôle de l'ordre public, y compris dans une société émancipée, qui peuvent exister avec une certaine forme de décentralisation, encore que les shérifs aux États-Unis sont une forme décentralisée de pouvoir policier qui n'est pas toujours extrêmement ragoûtante. Hein. Ouais. Bon, sans être un adepte du western, on peut quand même le penser. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser les conditions. Par exemple, je sais pas, une idée de Philippe Poutou, par exemple, intéressante dans sa campagne de 2017, c'était l'idée de désarmer la police. Désarmer la police. Oui. Après tout, la police britannique a été très longtemps, et elle n'est d'ailleurs que très partiellement armée aujourd'hui. Hein. Bon, donc, il est tout à fait possible. Et là, à mon avis, c'est des choses qui font sens et qui commencent à agir, en effet, dans un sens d'unification. Hein. Ça, je crois que c'est extrêmement important et c'est un porteur d'espoir. Je voudrais, de mon côté, conclure sur cette urgence qui est celle-là même que Frédéric vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'à force de crier au loup, il y a un moment où effectivement quelque chose comme du fascisme devient effectivement à l'ordre du jour, et il devient parce qu'il y a plusieurs foyers qui se développent. Il ne faut jamais oublier que c'est toujours aussi de l'intérieur même de l'appareil d'État que le fascisme surgit comme possibilité concrète, hein, c'est-à-dire de rupture avec les formes classiques, on va dire, de démocratie bourgeoise, parlementaire, etc. Il y a aussi des mouvements, évidemment, de masse, hein, il faut le dire, avec des formes de soutien de masse qui sont externes à l'appareil d'État. Par exemple, des partis d'extrême droite avec une audience de masse, pas une organisation de masse, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas avec une audience de masse, et un alliage entre peut-être des signifiants, on va dire, nouveaux dont le fascisme s'empare, par exemple celui de République, hein, le Front National, le Rassemblement National sont devenus des partis républicains, hein, leur islamophobie et leur hystérie anti-musulmane est justifiée au nom même de la laïcité républicaine. C'est un glissement tout à fait important et auquel il faut s'affronter, à mon avis, de façon tout à fait claire. Mais il y a aussi des signifiants et des récits tout à fait classiques. Hein. Le grand remplacement, par exemple. Oui, je considère qu'au cœur du récit fasciste à l'heure actuelle, c'est le grand remplacement. Et là, il faut bien dire les choses. C'est que 2017... beaucoup de gens ont dit, ben voilà, entre le facho ou la facho et Macron, mieux vaut encore Macron, ça nous permettra au moins de gagner un peu de temps, on va dire, et d'éviter le pire, etc. Ce qu'on a vu concrètement pendant toutes ces années, c'est Macron, sa politique, le déchaînement de la violence, de la répression et la forme sous laquelle elle a été justifiée ouvre littéralement un boulevard à la fascisation de la société française. Donc il me semble totalement exclu de revenir à une quelconque forme de front républicain qui permettrait de reconduire au pouvoir ces gens-là. Là aussi, il faut faire, je crois, le deuil ou une rupture par rapport à certains réflexes, on va dire, qui pouvaient apparaître comme évidents à l'heure actuelle. Ça ne rend que plus urgente l'émergence d'une alternative, hein, dont on a essayé un peu de discuter depuis le début.
Oui, du mode d'emploi de l'organisation et éventuellement de la forme de la société d'après. Frédéric, est-ce que tu veux un mot de conclusion avant que...
Pas spécialement.
On se sépare pour pas partir trop frustré.
Ben, je suis désolé, je vais pas. D'ailleurs, bon, j'espère qu'on sera pas si frustré que ça. Mais enfin, tu vois, c'est un énorme chantier. On pouvait pas le conclure en une heure et demie de discussion.
Hein. OK. Ben alors, merci beaucoup à tous les deux pour les prémices qu'on a pu construire ensemble, prémices d'une réflexion stratégique. Merci infiniment donc d'avoir réfléchi ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Hors Série. Salut.